On continue ce soir la doctrine de l'Église et nous étions en train d'envisager quelle est donc la fonction de l'Église. Nous avions vu ce qui concernait donc l'unité, la communion fraternelle, et maintenant il y a un autre point qu'il nous faut aborder, c'est la discipline. L'Église a comme devoir de maintenir en son sein une saine discipline. De nombreux textes de l'Écriture nous montrent cela comme étant une des fonctions importantes de la fonction de l'Église, et donc de faire en sorte que la différence entre l'Église et le monde soit nette. Quelle est la différence essentielle entre l'Église et le monde? Est-ce l'absence de péché au sein de l'Église? Non. L'Église est composée de pécheurs. Pécheurs pardonnés, sanctifiés, mais pécheurs quand même. Il semble donc que dans le cas de l'incestueux de Corinthe, ce dernier s'était repenti, si on se réfère à la deuxième lettre aux Corinthiens. Et par conséquent, Paul demande que cet homme soit réintégré après un temps de mise à l'écart, de mise sous discipline, qui, semble-t-il, impliquait son éloignement de la Sainte-Seine pendant tout un temps, y compris d'ailleurs après sa repentance, n'est-ce pas ? Donc un certain temps pour tester de sa véritable sincérité, sincérité de son repentir, et en même temps pour que cela serve d'avertissement aux autres. Parmi les cas qui demandent la mise sous discipline, selon les épîtres à Timothée et à Tite, il y a un autre point, c'est l'erreur doctrinale. L'erreur doctrinale qui peut conduire à la division. La division est une des fautes aussi majeures pour lesquelles quelqu'un doit être écarté. Éloigne-toi, n'est-ce pas, après un deuxième, un troisième avertissement, de tout homme qui cause des divisions. N'est-ce pas ? Diviser le corps de Christ est quelque chose d'extrêmement grave aux yeux de la parole de Dieu. Et un tel individu, celui qui cause une division de ce type-là, doit être neutralisé, bibliquement parlant. Souvent, celui qui divise le fait soit pour des raisons personnelles, des raisons de personnes, n'est-ce pas ? Comme on le voit par exemple dans la troisième épître de Jean, où il y avait un certain Diotrephe qui ne pouvait pas accepter l'autorité de l'apôtre Jean. Hein, pourtant c'était l'apôtre Jean, c'est pas quand même n'importe qui. Et vis-à-vis duquel, donc, Jean, l'apôtre, demande que l'on prenne des mesures. Il y a aussi le fait que, évidemment, pour des doctrines étrangères, eh bien, il y a des divisions qui se créent. Une fausse doctrine provoque immédiatement et automatiquement une division. Paul met en garde les anciens d'Éphèse, au moment où il leur fait ses adieux émilés, contre de semblables incursions de ceux qu'il appelle des loups ravisseurs. D'ailleurs, Jésus avait employé ce mot déjà quand il parlait de ceux qui viennent en vêtements de brebis, mais qui sont en fait des loups ravisseurs, et ils demandent que l'on soit prévenu contre eux. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Paul déclare aussi que, après son départ, il s'introduira dans l'église d'Éphèse des loups qui n'épargneront pas le troupeau, et c'est la tâche des anciens de veiller, n'est-ce pas, avec soin sur le troupeau sur lequel le Seigneur les a établis, anciens et évêques, n'est-ce pas, surveillants littéralement, épiscopoi en grec, n'est-ce pas, c'est des surveillants littéralement, hein, pour que précisément ils gardent le troupeau de ces loups ravisseurs qui viendraient justement avec des doctrines séductrices, donc déguisées en vêtements de brebis, mais qui viendraient en fait envoyés par Satan pour détruire. Jean nous dit aussi dans sa première épître qu'il y a des agents de Satan qui s'introduisent dans l'Église. Il dit, alors que vous avez entendu qu'il y a un antichrist qui vient, le grand antichrist dont tout le monde a entendu parler en Église primitive, eh bien, en attendant l'apparition de ce grand antichrist-là, il y a déjà aujourd'hui des antichrists. C'était des gens qui étaient au milieu de nous, qui sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et cela est arrivé justement pour qu'il soit clair aux yeux de tous que, eh bien tous ceux qui se réclament de nous ne sont pas des nôtres. Par conséquent, donc, il peut y avoir des gens qui sont animés par l'esprit de l'ennemi, par l'esprit de l'Antichrist. Et Paul dira à Timothée, les péchés de certains hommes sont manifestes avant qu'on les dévoile, pour d'autres, c'est dans le temps qu'ils se révèlent. Et c'est pourquoi il faut être extrêmement attentif, car certains ont des mauvaises dispositions qui apparaissent vite, d'autres, ça peut être, vous savez, comme dans le monde, ce qu'on appelle les espions dormants, qui peuvent être là, soit pendant des années, gagner la confiance de tout le monde, et puis soudain, sur un signal de leur centrale d'espionnage, ils sont activés, comme on l'appelle. Les espions dormants sont activés. Eh bien, Satan agit de même. Il peut introduire au milieu de nous des gens qui sont de ses agents, des antichrists, comme dit l'apôtre, hein, et puis qui vont rester là des années, et puis qui un jour vont être activés. Et il faut savoir que constamment, dans l'Église, il en est ainsi. Satan essaye de détruire ce qui est l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, l'œuvre de Dieu. Hein. Et par conséquent, il faut être constamment attentif dans ce domaine-là. Donc ici, ôtez le méchant au milieu de vous. Ôtez le méchant au milieu de vous de plusieurs manières. Nous avons parlé tout à l'heure, écarté de la Sainte Cène, manifestement. C'est quelque chose qui est logique. Il y a une autre forme de discipline dont nous parle l'apôtre, qui est celle-ci, justement, dans la deuxième épître de Jean. Si quelqu'un ne vient pas à vous avec cette doctrine, la doctrine juste, la doctrine vraie, que lui, Jean, annonce, ne le recevez pas, ne lui dites pas même salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et on pourrait rapprocher ce texte de texte de Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand il s'en prend à ces Thessaloniciens qui, croyant que le retour du Seigneur est imminent, ont décidé de ne plus travailler, n'est-ce pas ? Il dit, n'est-ce pas, si quelqu'un ne respecte pas les instructions que je donne, savoir qu'il travaille paisiblement, gagner son pain, etc., eh bien, n'ayez plus de contact avec lui. Non pas pour quelque sorte le brimer, mais pour lui faire honte et pour l'amener à la repentance. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Donc, il y a une attitude générale qui doit être celle des hommes spirituels vis-à-vis de quelqu'un qui ne marche pas droit avec le Seigneur et donc qui est mis sous discipline. Les apôtres ont désigné nominalement ces personnages qui ne marchaient pas droit. Nous avons vu par exemple avec Diotrephe tout à l'heure dans la troisième épître de Jean. Ils étaient désignés aux yeux de tous, n'est-ce pas, comme étant des gens qui ne marchaient pas droit. Et par conséquent, les chrétiens étaient invités à éviter d'avoir des contacts avec ceux-là jusqu'à ce que ces derniers se soient repentis. Et puis, il y a un troisième degré maintenant dans la discipline qui est l'exclusion, n'est-ce pas ? Ôtez le méchant du milieu de vous. Jésus dit cela, n'est-ce pas ? S'il refuse d'écouter l'Église après avoir été averti, dans Matthieu 19, Jésus nous donne la procédure à suivre, l'avertissement d'abord d'homme à homme, puis ensuite avec quelques frères, et enfin donc dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un publicain ou un païen, c'est-à-dire c'est l'exclusion de l'Église, n'est-ce pas ? Il est exclu de l'Église. Bon. Bien entendu, cette exclusion peut être temporaire. Si le frère se repent, comme Jésus dit, si ton frère se repent, n'est-ce pas ? Eh bien, tu lui pardonnes jusqu'à 77 fois, dit Jésus. Hein ? Et de nombreux textes nous parlent, n'est-ce pas, du retour du pécheur, du fils prodigue. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Celui qui ramènera quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité, dit l'apôtre, couvrira une multitude de péchés, sauvera une âme et couvrira une multitude de péchés. Donc, il y a toujours, n'est-ce pas, cette espérance que le pécheur qui a été mis sous discipline finira par revenir de sa mauvaise voie. Même si l'apôtre nous dit aussi qu'il y a certains péchés pour lesquels il n'est plus nécessaire de prier. Ça veut dire que si l'on doit prier pour le retour du pécheur qui a été mis sous discipline, lorsque ce dernier passe un certain stade de l'endurcissement, eh bien, vient un moment où il est inutile de prier pour lui-même, où il est décommandé de prier pour lui. On peut alors estimer qu'à partir de ce moment-là, l'exclusion est définitive parce que le cœur s'est définitivement endurci. Bien sûr, c'est un cas extrême et extrêmement grave, mais hélas, qui se produit plus souvent qu'on ne le pense. Car il est, hélas, logique, naturel, si j'ose dire, que celui qui s'est véritablement endurci après avoir été averti au sein de l'Église, si, étant au sein de l'Église, il ne s'est pas laissé reprendre, il ne s'est pas laissé avertir, il y a effectivement humainement peu de chances pour qu'étant hors de l'Église, eh bien, il revienne à lui-même. Ou alors il faut des circonstances providentielles pour que cela soit. Or, justement, certains textes de l'Écriture nous laissent entendre que cela peut être, qu'il peut y avoir de telles circonstances. Il y a en particulier un texte tout à fait étonnant dans la première épître de Paul aux Corinthiens, justement en relation avec cet incestueux de Corinthe, qu'on retrouve d'ailleurs dans les épîtres à Paul et à Timothée, c'est l'expression « livré à Satan ». Par rapport à cet incestueux de Corinthe, vis-à-vis duquel les Corinthiens ont usé d'une faiblesse coupable, Paul dit « moi, Paul, n'est-ce pas, absent de corps, mais présent en esprit avec vous, j'ai déjà jugé un tel homme. Et voilà ce que je déclare, que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Fils de l'homme. » Et dans une des épîtres à Timothée, il parle aussi d'un personnage dont il dit qu'il l'a livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Bien. Une telle expression, livré à Satan, donc manifestement était une mesure de discipline. Et de discipline pour des cas excessivement graves. Donc dans le premier cas, celui du Corinthien, inceste caractérisé et non traité, hein. Et puis dans le deuxième cas, blasphème. Blasphème donc manifeste. Donc c'est vraiment, si j'ose dire, dans l'arsenal des mesures de discipline, la mesure qui est la plus extrême. Par contre, il est fort regrettable que l'Écriture nous donne peu de détails sur ce qu'était pratiquement le fait d'être livré à Satan. Alors plusieurs explications, comme souvent dans des choses qui sont obscures, ont été avancées. La pire, celle que nous rejetons d'emblée, bien entendu, est celle de l'Église catholique au Moyen-Âge, et donc de l'Inquisition, que le corps soit détruit pour que l'esprit soit sauvé. Et les inquisiteurs, n'est-ce pas, se sont acharnés à détruire le corps de malheureux, n'est-ce pas, hérétiques ou supposés tels, pour sauver leur âme. Et quand on brûlait des hérétiques ou des sorcières ou des juifs ou des protestants, n'est-ce pas, sous l'Inquisition, eh bien, c'était en se basant sur ce verset-là, entre autres. Pas le seul, mais sur celui-là surtout. N'est-ce pas ? Alors, le condamné était livré au bras séculier. Ça veut dire qu'il était livré à Satan. Et le bras séculier, le bras de Satan, détruisait son corps par le feu, hein, en espérant ainsi, eh bien, qu'on sauverait son âme. Et vous savez comment, au moment où quelqu'un montait sur le bûcher, il y avait toujours un prêtre à proximité de lui pour lui demander s'il était prêt à se repentir, s'il était prêt à revenir dans le giron de l'Église catholique, par exemple, pour ce qui était des hérétiques. Et s'il répondait oui, par crainte des flammes, il avait le privilège insigne d'être étranglé avant de mourir et d'être brûlé ensuite une fois mort plutôt que d'être brûlé vif, ce qui était quand même un peu plus agréable, disons. Bon, enfin, vous voyez quand même que tout était relatif dans ce domaine. Alors, bien évidemment, il n'est pas question pour nous d'accepter cette interprétation-là, qui est manifestement une interprétation véritablement diabolique de ce verset. Et une interprétation autre que celle des orthodoxes, et qui serait déjà plus acceptable, même si elle semble un peu courte. Pour les orthodoxes, livrer à Satan, c'est excommunié. Car celui qui est excommunié est privé des moyens de grâce, et notamment dans la conception orthodoxe et catholique, il est privé des sacrements. Il est donc livré au monde, à l'influence du monde, à l'influence de Satan. Il est donc livré à Satan. Par conséquent, pour les orthodoxes, livré à Satan, c'est tout simplement synonyme d'excommunier et d'exclure de l'Église. Je dis que c'est une explication bien que plus valable que celle des catholiques. C'est une explication qui est un peu courte, parce que dans d'autres textes, il est question d'excommunier au sens propre du terme. Et si l'apôtre Paul éprouve le besoin d'employer une expression autre, n'est-ce pas, dans le cas des deux personnages que nous avons cités, le blasphémateur d'un côté et l'incestueux de l'autre, eh bien c'est que vraisemblablement il y a une nuance entre le fait d'ôter le méchant du milieu de soi, c'est-à-dire l'excommunication, et puis le fait de livrer à Satan. Il y a une troisième explication que on trouve dans les milieux pentecôtistes, n'est-ce pas, et qui est plus du domaine expérimental, c'est, bien entendu, dans des cas extrêmes, et là, j'ai entendu parler personnellement d'un cas comme cela. Je ne sais plus de ce qui s'était passé au juste, enfin, une femme avait, dans une église, commis un péché gravissime, de quel ordre, je ne me souviens plus, peu importe, et dûment reprise, dûment avertie, avait refusé de se repentir de son péché. Et comme son péché portait gravement atteinte au témoignage de l'Église et nuisait énormément, non seulement au témoignage, mais à la bonne marche de l'Église en soi, le pasteur et les anciens avaient donc décidé, prenant le texte de Paul que j'évoquais tout à l'heure, de livrer cette femme à Satan. Il avait averti, en disant, voilà, tel jour nous allons nous rassembler et vous serez livrés à Satan. La femme s'était mise à rire, disant « Vous faites ce que vous voulez, etc., je m'en fiche, etc. » Bien. Donc, les pasteurs anciens étaient rassemblés et ils avaient prié, disant « Seigneur, que cette femme soit livrée à Satan pour qu'elle puisse être sauvée, comme dit ta parole. » Et dans les jours qui ont suivi, cette femme a été frappée d'une maladie étrange, étonnante, n'est-ce pas, que les médecins n'ont pas pu diagnostiquer, je crois qu'il y a un problème de peau, n'est-ce pas. Je n'ai plus exactement les détails, peu importe. Et alors, il est devenu manifeste très rapidement que cette maladie l'a menée à la mort. Et quand elle s'est vue donc aux portes de la mort, elle a demandé aux pasteurs anciens de venir. Et donc, elle a demandé pardon. Elle a reconnu qu'elle avait péché. Elle a demandé qu'on prie pour elle, pour sa guérison, ce qui a été fait. Et elle n'a pas été guérie, n'est-ce pas? Elle est morte. Elle est morte, mais elle est morte après s'être repentie. Bon, j'ai entendu citer deux autres cas du même genre, à peu près, n'est-ce pas, où il en a été ainsi. Finalement, si vous voulez, livrer à Satan serait quelque chose d'un petit peu d'équivalent dans ce cas-là de ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. En tout cas, il est très clair, n'est-ce pas, qu'il s'agit de quelque chose qui est quasiment surnaturel dans les deux textes que Paul cite et qui a affaire vraiment avec des mesures extrêmes pour des cas extrêmes. Car il va de soi que si l'interprétation que nous avons donnée est la bonne, n'est-ce pas, ce ne peut être quelque chose qu'on ne peut manier qu'avec une extrême prudence. N'est-ce pas, qu'une extrême prudence. Et vraiment, comme je disais il y a un instant, dans des cas extrêmes. Donc voilà, semble-t-il, quels sont bibliquement les différents moyens de discipline. En dehors, bien entendu, de la répréhension fraternelle courante, normale, si je veux. Maintenant, si cela n'est pas, et très souvent, il nous faut constater que le ministère de discipline est peu exercé dans beaucoup d'églises. Il est peu, d'ailleurs, quand il en est ainsi, c'est souvent un signe d'un déclin spirituel important. Car quand le réveil souffle, il y a, comme à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, une sainte crainte de Dieu qui s'empare de la multitude. Et même s'il n'y a pas tous les jours des cas comme celui d'Ananias et de Saphira, il n'en demeure pas moins vrai que il y a le désir, n'est-ce pas, de marcher en sainteté qui fait que les responsables de l'Église interviennent. Et puis aussi, il y a un autre moyen par lequel Dieu intervient, celui qui est évoqué par Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, souvent sur les questions de la Sainte Cène. Il dit « De ceux qui prennent la Sainte Cène indignement, c'est la raison pour laquelle il y a au milieu de vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que certains sont morts prématurément. Celui qui donc mange et boit le corps du Seigneur sans l'avoir discerné, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, la Sainte Cène est un moyen de discipline pour le Seigneur, quand le réveil est là, quand l'Église marche dans la sainteté. Et ça, bon, il y a des cas, des cas qui sont connus, ce cas que citait David Duplessis, n'est-ce pas, quand un jour, une de ses voyages, dans une église, une femme vient vers lui, disant « Est-ce que vous pourriez prier pour moi, parce que je suis malade, et que j'ai demandé à beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu de prier pour moi, et j'ai jamais été guéri, mais justement, chaque fois qu'un serviteur de Dieu passe, un grand homme de Dieu, ben, je lui demande de prier pour moi. » Alors Duplessis a flairé quelque chose qui dit « Mais comment se fait-il que, parce que lui, Duplessis était un docteur, il n'avait pas spécialement un don de guérison. Bon, il priait pour les malades comme tout le monde, et les malades étaient guéris, mais il n'avait pas un don de guérison au sens profond du terme, n'est-ce pas, au sens ministère du terme. Alors il dit, mais comment se fait-il, madame, que vous ayez demandé, quand il a entendu qui avait prié pour cette femme, le frère untel, le frère untel, etc. Il dit, enfin, quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais de toute façon, pourquoi vous allez comme ça vers les serviteurs de Dieu de passage? C'est vers votre pasteur que vous devriez aller. Ah oui, mon pasteur, il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance dans la prière. Il dit, mais est-ce que vous avez demandé de prier pour lui? Oui, mais ça, rien s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, en parlant avec cette femme, elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème avec son pasteur. Ah oui, elle dit, écoutez, madame, c'est pas la peine de vous chercher plus loin. Vous pourrez demander aux plus grands évangélistes, vous pourrez demander à Paul lui-même, s'il était vivant, n'est-ce pas, de vous imposer les mains, vous ne seriez pas guéri. Pourquoi ? Et il lui a pris le texte, n'est-ce pas ? Parce que chaque fois, vous prenez la Sainte Cène avec ce pasteur avec lequel vous avez un différent. Bien sûr, dit la femme. Bon, vous prenez un jugement contre vous-même. Alors, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'aller régler ce problème avec lui, et ensuite vous lui demanderez de vous imposer les mains, et vous serez guéri. Jamais, plutôt mourir ! Et Duplessis répond, c'est ce qui risque de vous arriver, justement. Alors là, ça l'a fait réfléchir. Et elle est allée vers le pasteur, elle a réglé le problème, le pasteur a prié pour elle, elle était guérie. Bon, il y a des choses comme cela qui sont courantes. Ou encore cet exemple que raconte Butler de cette jeune femme, épouse d'un des étudiants de son école biblique, n'est-ce pas, qui s'était découverte une grosseur au sein un beau jour, et qui s'affolait, bien évidemment, et qui avait prié. Elle avait eu l'attitude juste, n'est-ce pas, de prier et de chercher la face de Dieu. Et alors, un soir, cette jeune femme vient vers lui et lui dit, écoutez, voilà, il faut que je vous demande pardon. Ah bon ? Moi, je vous ai fait quelque chose ? Non, rien du tout. Mais je vous en veux. Ah ! Oui, il dit, parce que mon mari est étudiant chez vous, dans votre école biblique, et il rentre des cours tellement enthousiasmé. Il dit, oh, frère Butler, il nous a apporté des choses tellement extraordinaires que ça finit par m'agacer, ça finit par m'irriter, et j'ai fini par développer des mauvais sentiments contre vous. Vous voyez, comme le diable est subtil, entre parenthèses. Butler ne lui avait rien fait à cette femme-là, n'est-ce pas ? Que du bien, par l'intermédiaire de son mari. Et même par ça, Satan avait trouvé le moyen, justement, de faire naître dans le cœur de cette femme des germes d'amertume contre son serviteur fidèle. Alors, elle lui dit, voilà, depuis quelques jours, donc j'ai cette grosseur, etc. Et j'ai cherché le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré que... Elle dit, voilà, je me demande si elle n'avait pas demandé à d'autres déjà de prier pour elle, puis ça n'avait pas marché. Oui, c'est ça, je crois qu'elle a demandé à plusieurs déjà de prier pour elle. et rien ne s'était produit. Et alors elle avait prié le Seigneur à ce moment-là. Le Seigneur dit, pourquoi je ne suis pas guéri? Et le Seigneur avait dit, tu vas aller demander à Butler de prier pour toi. Et à ce moment-là, elle avait compris. Elle avait dit, mais justement, c'est le dernier vers lequel j'irai. Le Seigneur a dit, mais oui, justement, c'est bien pour ça que c'est le premier vers lequel il faut que tu ailles. Et au préalable, que tu règles le problème avec lui. Alors il lui a expliqué tout ça. Et alors Butler, il dit, bien, j'ai juste posé ma main sur sa tête et j'ai dit, Seigneur, guéris-la, Amen. On ne peut pas être plus lapidaire, on ne peut pas être plus bref dans la prière. Et il dit, entre le moment où elle est descendue de l'estrade et elle est retournée à sa place, elle a été guérie. Alors, il y a là donc des choses qui donc nous montrent qu'il y a aussi une discipline qui s'exerce à ce niveau-là. Mais, je disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de disciplines qui s'exercent dans les églises. Parce que c'est la pente naturelle. Parce que lorsque les gens cessent d'être spirituels et réagissent de plus en plus charnellement dans le domaine des choses spirituelles, eh bien, il devient de plus en plus difficile d'exercer la discipline. Il devient difficile d'abord parce que les gens n'acceptent pas d'être pris. Ça, c'est la première chose. Les gens charnels n'acceptent pas d'être pris. Et alors, se produit à ce moment-là une espèce de chantage, n'est-ce pas ? Si vous insistez, je m'en vais. Et comme peu de pasteurs aiment voir des gens partir, eh bien, des pasteurs un peu faibles cèdent à ce chantage-là et acceptent, tolèrent au sein de l'Église des choses qui ne devraient pas être acceptées ni tolérées. Et puis ensuite, si, à partir du moment où on commence à accepter des choses comme ça, eh bien, les autres membres de l'Église voient, disent, tiens, mais le frère et la sœur, n'est-ce pas, là, la sœur un tel, on a accepté d'elle quelque chose là, eh bien, si elle se permet ça sans qu'on la reprenne, pourquoi moi je ne me permettrais pas aussi telle chose sans qu'on me reprenne? Et le niveau général baisse. Et alors à ce moment-là, quand le pasteur, vraiment une chose grosse intervient et qu'il veut intervenir, eh bien, il voit une partie de l'Église tout entière, pas seulement la personne intéressée, mais une partie de l'Église tout entière se dresser contre lui. Vous savez, une espèce de réaction de solidarité, un petit peu comme ce qui se passe dans le monde. Je vais prendre une expression un petit peu vulgaire et familière, n'est-ce pas ? Touche pas à mon pote, quoi. Hein ? C'est un petit peu l'idée. Hein ? Parfois, ça peut être la famille. Ou bien quelquefois, au bout d'une ou deux générations, quand il y en a qui sont mariés les uns avec les autres, n'est-ce pas ? Mais c'est toutes les familles là, qui sont mariées avec les unes avec les autres, n'est-ce pas ? Qui sont liées par des mariages, qui se dressent, n'est-ce pas ? Pour faire bloc autour de celui qui risque d'être mis sous discipline, etc. Et alors, si le problème est un conflit, n'est-ce pas, entre deux personnes de l'Église, dans lequel une a tort et l'autre a raison, si les responsables de l'Église ne mettent pas sous discipline celui qui a tort, eh bien, ceux qui ont raison vont prendre parti contre lui. Et puis, s'il met sous discipline ceux qui ont tort, le clan de ceux qui soutiennent celui qui a tort vont prendre parti contre lui. Et c'est comme ça qu'arrivent souvent des décisions dans les Églises. Ça, pour des raisons qui sont uniquement charnelles, parce que, justement, on n'a pas veillé de maintenir la discipline. Alors, l'exercice de la discipline est un des plus difficiles à exercer, justement, parce qu'il faut suffisamment de fermeté et suffisamment de douceur. On peut exercer une discipline qui peut être extrêmement négative si on le fait d'une manière sèche, légaliste et sans miséricorde. Et alors, il faut constamment, n'est-ce pas, cet équilibre entre la rigueur juste et puis la miséricorde. Et cet équilibre n'est certes pas facile à trouver. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu. C'est justement une des fonctions des responsables des ministères que Dieu a placés dans l'Église, justement, d'avoir exercé cette discipline et puis d'avoir exercé parfois aussi dans le cadre de l'Église universelle. Car il peut y avoir, n'est-ce pas, des gens qui s'égarent, même au plus haut niveau. Il y a même eu des papes qui ont été hérétiques, au sens où l'Église catholique l'entend. L'Église catholique le nie, cela. Mais on connaît des papes qui ont, par exemple, été hérétiques sur le plan de la Trinité, qui ne croyaient pas à la Trinité et qui étaient papes. Et qui ont été excommuniés. Qui ont été excommuniés pour hérésie dans ce domaine-là. Alors, voyez-vous l'infaillibilité du pape, ce qu'on peut en dire dans ce domaine-là, quoi. Alors, ça, c'est un des gros problèmes, n'est-ce pas, de l'Église. Et il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais il faut vraiment que la discipline soit maintenue. Sinon, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est le niveau de l'Église qui va baisser de plus en plus. Et finalement, on va se retrouver dans une espèce de club. Bon, il est certain qu'aujourd'hui, on arrive à un stade absolument impensable où on voit aujourd'hui dans des églises des pasteurs homosexuels officiellement acceptés, officiellement tolérés, où on voit des divorcés remariés, pas, qui sont accueillis, qui bon, ou alors j'entendais dire une chose absolument terrible dans les églises réformées, tant pis je les cite. En France, maintenant, un récent synode est en train d'accepter la cohabitation, c'est pas, comme quelque chose de normal, parce que le mariage divorcé, ça va de soi. Mais maintenant, on en est à la cohabitation, c'est-à-dire le concubinage. Hein, parlons crûment, appelons un chat, le concubinage, n'est-ce pas ? Notamment le concubinage des jeunes, parce qu'il est normal que les jeunes essayent. Et l'Église doit les accompagner dans leur réflexion. N'est-ce pas ? Le concubinage, ou plus, pardon, la cohabitation, n'est-ce pas, est un temps de réflexion des jeunes entre eux, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas encore prêts à s'engager, alors c'est un temps de réflexion. Alors il faut que l'Église chemine avec eux dans ce temps de réflexion qu'est le concubinage. Vous voyez la subtilité ? Eh bien, on en est là. Parce que justement, on a refusé la discipline. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que ces gens qui acceptent des choses comme cela, qui acceptent le concubinage officialisé, à quand une bénédiction, n'est-ce pas, pour ces gens-là, pour les encourager, pour qu'il ne soit pas un mariage, mais qui les aidera à cheminer, n'est-ce pas, en vue du mariage, bien entendu. Et puis, à quand aussi la bénédiction de ce type-là sur les couples homosexuels? Vous savez, on y va. Ça, on y va, ça vous pouvez être certain. Eh bien, on en arrive là, justement, parce que on a cessé, justement, d'exercer la discipline. Et alors, ceux-là même qui acceptent des énormités pareilles, qui acceptent des abominations qui sont dignes de Sodome et Gomorre, en sorte qu'il n'y a plus aucune différence, comme je disais tout à l'heure, entre l'Église et le monde. Et là, c'est l'Église tout entière qui est gangrénée. C'est l'Église tout entière qui est apostate. Et, à la limite, c'est, dans la vision de Dieu, l'Église tout entière qui est retranchée. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de contact à avoir avec des gens comme ça. Comme on disait hier, nous n'avons pas à nous asseoir en compagnie des méchants, nous n'avons pas à fréquenter des gens qui professent de semblables doctrines. Et le seul problème, c'est que, malheureusement pour nous, ce sont ces gens-là qui ont trusté, monopolisé le label protestant. Et par l'intermédiaire de la Fédération protestante de France, on est obligé d'avoir un minimum, n'est-ce pas, de comment dirais-je, même pas de relation, mais enfin de référence à eux, par rapport à eux, puisque c'est, dans le monde, c'est eux qui sont reconnus comme protestants. Et c'est pourquoi, entre parenthèses, nous sommes en train de négocier ce statut, justement, de membres correspondants, qui nous permettrait justement de ne pas les fréquenter dans l'évolution qui va être la leur, si dramatique, du genre de celle que j'évoquais là. Et alors, dans le même temps, ce sont ces gens qui acceptent ces abominations-là, qui vont se montrer alors d'un pinaillage extraordinaire sur des détails. Sur des détails. J'ai entendu dire dernièrement une chose qui m'a profondément étonné, qu'en Suède, il y a une importante minorité finlandaise, de Finlandais, parlant finlandais, qui sont installés en Suède. Et donc, pour ces Finlandais immigrés, qui sont plusieurs dizaines de milliers, si j'ai bien compris, il y a plusieurs églises luthériennes, finlandaises, de langue et de rite finlandais. Or, l'église officielle de Suède est une église luthérienne aussi. Donc, ce sont vraiment des frères. La seule chose qui les différencie, c'est que les uns parlent suédois, les autres parlent finlandais, et que par conséquent, ils ont quelques coutumes qui sont celles des ils n'ont pas tout à fait la même liturgie, les Suédois et les Finlandais. Or, le synode de l'église luthérienne suédoise vient de décider qu'à dater d'une certaine date, eh bien, toutes les églises luthériennes finlandaises installées en Suède devraient faire leur culte en suédois et non plus en finlandais. Vous vous rendez compte ? C'est inimaginable. Et ils en sont à s'excommunier. On est au bord de l'excommunication mutuelle parce que les Finlandais disent « Niet, pas question, nous avons des personnes qui ne comprennent pas le suédois au milieu de nous. Par conséquent, nous continuerons à prêcher en finlandais. » Et bien les autres disent « nous allons vous excommunier. » On en est là. On en est là. Et alors, pendant ce temps-là, eh bien, l'église suédoise luthérienne recrute par petites annonces dans les journaux des pasteurs, parce qu'on en manque, n'est-ce pas ? Et il est stipulé dans l'annonce, c'est clairement mis, que même si on est athée, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on est prêt à accepter la discipline. Voilà. Alors d'un côté, n'est-ce pas, on est prêt à accepter des pasteurs qui sont des athées, mais par contre, on n'acceptera pas que des frères qui sont d'une nationalité différente fassent le culte dans une autre langue que le suédois, qui est la langue sainte, comme chacun sait. C'est pas logique ? Non, c'est pas logique. Et si, en même temps, c'est logique ? Parce que ces gens-là n'ont plus de dimension spirituelle, ils n'ont plus qu'une dimension religieuse. Et nous sommes ici au niveau du religieux et non plus au niveau du spirituel. Or, justement, comme ils voient les choses qui s'effilochent, je crois que, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, mais 80% de la population suédoise se réclame de l'église luthérienne. 90% sont luthériens en Suède. Mais les églises sont vides le dimanche matin. Il y a peut-être, s'il y a 5% de Suédois qui pratiquent, parmi ces 80% qui sont inscrits sur les registres des églises, je crois que je suis très au-dessus de la vérité. Je dis 5%. Hein? Alors, ils voient que les choses comme ça, c'est filoche, ça part à volo, il n'y a plus rien. Alors, il y a une espèce de crispation qui se fait sur des rites, sur des coutumes, sur des choses qui sont secondaires, qui nous paraissent vraiment, pour nous, dérisoires, quoi, hein, mais qui prennent une importance dans ces moments-là, parce qu'il ne reste plus que la dimension religieuse pour se récupérer. Regardez, par exemple, à l'intérieur de la Fédération protestante, on a un phénomène un peu du même ordre. Par exemple, la question du baptême. Pendant des dizaines d'années, il y a eu des pratiques différentes du baptême dans la Fédération protestante. Il y a ceux qui baptisent les enfants, il y a ceux qui baptisent les adultes. Bon. Dire que les relations étaient harmonieuses sur ce plan-là serait exagéré, serait mentir. Mais enfin, tant bien que mal, on a coexisté dans la Fédération protestante. Depuis peu, il y a manifestement une campagne, n'est-ce pas, pour imposer le baptême des enfants à ceux qui pratiquent le baptême des adultes. Et alors, n'est-ce pas, il y a des thèses savantes qui sont élaborées par des théologiens réformés et luthériens pour montrer qu'il faut baptiser qu'il faut baptiser les enfants. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous font des thèses tout aussi savantes pour montrer que Jésus n'est pas ressuscité, que c'était une hallucination des disciples, ou que Jésus n'était pas le fils de Dieu, qu'il était le fils de Joseph. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même démarche. Pourquoi, n'est-ce pas, cette rage à vouloir nous imposer en ce moment les femmes pasteurs ? Pourquoi cette rage à vouloir nous imposer l'avortement ? Qu'une récente déclaration de la Fédération protestante disait que ceux qui refusent l'avortement, eh bien, sont coupables de non-assistance à personne en danger parce que la femme va aller se faire avorter à la petite semaine et mettra sa vie en danger. Donc, n'est-ce pas, nous qui refusons l'avortement, nous sommes coupables de non-assistance de personne en danger. Vous voyez, la subtilité du raisonnement diabolique, ça c'est véritablement le raisonnement Satan. C'est parce que nous sommes dans le domaine religieux. Alors, on va filtrer le moucheron, comme dit Jésus, et on va avaler le chameau. C'est exactement les pharisiens. Et vous reprenez les textes, vous avez exactement le parallèle. Vous donnez la dîme de l'amande, du cumin, de la nette, des moindres petites choses. Hein. Vous faites en sorte, n'est-ce pas, que la loi de Moïse ne soit pas violée en circoncisant un enfant le huitième jour. Et vous oubliez les choses principales. Regardez, par exemple, les accusateurs de Jésus qui n'entrent pas dans le prétoire de Pilate pour ne pas se souiller, pour ne pas manger la Pâque, pour pouvoir manger la Pâque, parce que ça va être la Pâque. Eh bien, ces gens, c'est pas si saints qui ne veulent pas se souiller pour pouvoir manger la Pâque, ce sont justement ceux qui sont en train de comploter la mort du juste de l'innocent, qui savent parfaitement qu'ils sont en train de faire une forfaiture. Caïphe l'a dit, n'est-ce pas, il vaut mieux que cet innocent meure pour tout le peuple, hein. Complot politique. Ils savent parfaitement, par jalousie, etc., et raison politique et autres triomphes politiques, tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas, que Jésus est innocent. Ils sont en train de préparer sa perte, mais en même temps, pour rien au monde, ils n'entreront dans le prétoire de ce Romain impur pour ne pas se souiller. C'est incompréhensible. Si, c'est humain. C'est exactement charnel. Ça, il n'y a plus de vision spirituelle, alors on est uniquement dans la vision du religieux. La vision religieuse. Voyez-vous ? Alors, ça, c'est un test qui ne trompe pas. Bien, je crois qu'on pourrait beaucoup s'étendre sur cette question de la discipline, parce que c'est une question extrêmement vaste. Mais je voudrais maintenant avancer un peu et évoquer le témoignage. Le témoignage que l'Église doit rendre envers le monde. Et ce témoignage a deux aspects. La mission et l'évangélisation. Je voudrais simplement terminer sur la... Oui, j'ai oublié de terminer sur la discipline. En disant que, finalement, quand on abandonne la vision de la discipline, on revient petit à petit à la notion d'église de multitude. C'est pas, par exemple, regardez ce qui se passe chez les baptistes, qui est assez typique de ce qui se passe dans les milieux évangéliques. Là où on n'accepte plus la discipline, même, par exemple, quelqu'un qui est mis sous discipline peut aller dans une autre église. Hein, il sera accueilli par un autre pasteur, beaucoup plus compréhensif, hein, qui prend une énorme responsabilité à ce moment-là, parce qu'il fortifie un pécheur dans sa mauvaise voie, finit à bien démontrer ça dans son dernier discours dans les réveils sur les fausses consolations à donner aux pécheurs. Parfois, il va trouver des appuis même auprès des responsables du mouvement, hein, des chefs au niveau national, qui vont condamner le pasteur qui a voulu mettre de l'ordre dans son église. Hein. Alors, automatiquement, là, on revient vers une église de multitude. La profession de foi qui précède le baptême devient une pure formalité. Je me souviens d'avoir été frappé de ça quand, jeune, pas encore converti, j'étais allé faire un camp chez les baptistes d'Angleterre, un camp de jeunes, un été. Et là, j'étais étonné de voir, n'est-ce pas, moi qui sortais d'une église baptiste pionnière, n'est-ce pas, qui était donc vraiment militante, de voir que ces gens-là, qui étaient donc fils de baptiste depuis déjà des générations et des générations, eh bien, se faisaient baptiser parce qu'ils arrivaient à l'âge, quoi. Vers 14-15 ans, n'est-ce pas ? Ah, t'es pas encore, t'es baptisé, toi ? Ah non, j'ai entendu qu'ils discutaient entre nous. Ah oui, c'est vrai, j'y pense, oui, c'est vrai, moi, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, c'est pas... Ouais, c'est quand même le moment, quoi. Pas question de conversion, pas question de nouvelle naissance, pas question de repentance, rien du tout. On arrivait à l'âge, quoi. Hein ? Comme dans les églises multitudinistes, n'est-ce pas ? Quand moi, j'avais cet âge-là, eh bien, dans l'église réformée où j'étais, puisque je n'avais pas d'autre église à ma disposition, eh bien... T'as fait ta communion solennelle là, à 14 ans, n'est-ce pas ? Il y avait tout le monde, n'est-ce pas, faisait sa communion. Alors on faisait le catéchisme, il y avait 4-5 ans de catéchisme auparavant, je ne me souviens plus, quelque chose comme ça. Et puis tout le monde était assidu, n'est-ce pas, travaillé, etc. Comme... Alors là, vous aviez des groupes de jeunes importants qui étaient dans les camps où vous faisiez 2-3 jours de retraite avant la communion solennelle. Alors il y avait des jeunes qui venaient de tout le Poitou, des dizaines de jeunes, n'est-ce pas ? Et puis tout ce beau monde-là était là la Pentecôte suivante pour faire sa profession de foi, sa première communion solennelle. Puis le dimanche d'après, terminé. On n'en avait plus un seul, plus un, fini. On les voyait au mariage. Puis après le mariage terminé, on les voyait pour l'enterrement. C'était fini. Et je me souviens du cas d'un de mes copains qui était donc... avait suivi cette filière-là. Moi, je n'avais pas voulu faire, bien entendu, puisque... J'avais déjà un petit peu la perspective baptiste, et puis bon, je n'avais pas été baptisé en plus de ça enfant. Alors, donc il avait fait sa communion, c'était le dimanche de Pentecôte, c'était toujours ce jour-là que ça se passait. Et puis le dimanche suivant, au moment du culte, vers 10h, moins quelque chose, sa mère voit qu'il met son manteau, qu'il prend sa Bible, etc. Il dit « Où tu vas ? Ben, je vais au culte. » « Mais c'est pas fini cette affaire-là, je croyais que c'était terminé, t'as pas fait ta communion ? Si, mais c'est fini maintenant !» La conception des gens. La conception des gens. Exactement ça. Eh bien, vous avez certaines églises baptistes, vieilles églises baptistes, où on n'est pas loin de ça. Là, c'est caricaturé un peu, mais on tend vers ça. On tend vers ça. Tu arrives à 14 ans, tu arrives à 15 ans, tu arrives à 16 ans, Ah ben, c'est le moment de te faire baptiser. Hein. Et puis après, ben, ma foi, on vient pas, une fois sur deux, de temps en temps, quand ça nous chante, quand il pleut et que l'été, on prend la voiture, on va s'aérer, on va faire ci, on va faire ça, etc. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, parce que justement, il n'y a plus de discipline. Alors, on appelle ça l'amour. Hein. Au nom de l'amour, n'est-ce pas, on tolère des choses incroyables. Certaines églises évangéliques, n'est-ce pas, même l'église de Pentecôte, eh bien, il y a des homosexuels qui sont là, qui prennent la Sainte Cène, etc. Quoi, hein. Notoire, voulu, connu, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème. Je dis, mais c'est pas possible, si, parce que justement, on appelle ça l'amour. C'est tellement plus facile de laisser aller que de combattre, que de lutter. Mais justement, la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons de ceux qui luttent. Bon, je ferme la parenthèse sur ce dernier point. Et je reviens à deuxième point que je voulais évoquer, c'est-à-dire celui de la mission, le témoignage de l'Église vis-à-vis du monde, mission et évangélisation. Il est certain que chaque fois que l'Église a placé au premier plan ou sur un des premiers plans de ses préoccupations, l'évangélisation et la mission, elle a prospéré. Et la mission et l'évangélisation sont une des raisons d'être, n'est-ce pas, de l'Église. Et on pourrait dire que la deuxième mission de l'Église, qui est de faire croître les âmes qui se sont converties, finalement, ça forme un tout. Ce n'est pas des choses à opposer, mais c'est un tout. Hein? Faites du sein de toutes les nations des disciples, dit Jésus, et enseignez-leur ensuite à garder tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples, c'est l'évangélisation. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, c'est ce qu'on pourrait appeler la croissance spirituelle, l'œuvre de l'Église. Il n'y a pas d'évangélisation véritable si ensuite les âmes ne sont pas enseignées. Si les âmes ne croissent pas en grâce et en connaissance, comme dira l'apôtre Pierre. Par conséquent, tout ça, c'est une seule œuvre. Et alors, évangélisation et mission sont une des raisons d'être de l'Église sur la terre, car si cela n'était pas nécessaire, eh bien, il n'y aurait aucune raison pour que quelqu'un qui s'est converti reste sur la terre. Il pourrait directement entrer dans la gloire céleste. Et si le Seigneur laisse ceux qui se sont convertis sur la terre, c'est pour qu'ils soient des témoins. Et pour qu'ils soient des meilleurs témoins, nous dit Jésus, chapitre 1 du livre des Actes, il leur accorde la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceci jusqu'à son retour. Quand la plénitude des païens sera rentrée, ça veut dire le nombre des élus que Dieu a connus d'avance, ça veut dire ceux qu'il a connus, qui écouteraient sa parole et qui se convertiraient. Le Seigneur sait quel en est le nombre, non pas qu'il a déterminé les uns et les autres, mais il a su d'avance qui allait écouter, qui n'allait pas. Et quand ce nombre-là sera rempli, dit l'apôtre Paul, eh bien Jésus reviendra, l'Église sera enlevée. Elle n'aura plus de raison d'être. Et c'est pourquoi nous devons avoir cette double vision constamment sous nos yeux. Étant bien entendu que, en fonction des temps, en fonction des époques, les méthodes d'évangélisation, bien évidemment, changent, évoluent. Il y a pour cela, justement, une grande règle d'or à adopter, celle de Paul, se faire tout à tous. Être juif avec les juifs, grec avec les grecs, faible avec les fers, faible, fort avec les forts. On ne va pas parler les uns aux uns et aux autres de la même manière. Il n'y a pas une recette, une méthode stéréotypée, comme on trouve parfois dans certains manuels dits de gagneurs d'âme, hein, un petit peu à la manière des témoins de Jéhovah, on apprend le, par cœur, n'est-ce pas? Alors, vous avez les manuels, hein, alors si on vous répond ça, vous avez la réponse, page 3. Si on vous répond ça, vous voyez page 12, vous avez la réponse. Vous apprenez par cœur et vous débutez ça. Bon. Non, la méthode biblique n'est pas celle-là. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie, c'est quelque chose qui est mouvant, qui est changeant. Et par conséquent, il faut s'adapter. Mais par contre, ce qui demeure intact le même, c'est le message. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Folie pour les uns, scandale pour les autres, dira l'apôtre Paul, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et en ce qui concerne la nature du message, là, il ne peut y avoir absolument aucun compromis. Il ne peut y avoir aucune variation. Et c'est pourquoi l'évolution à laquelle nous assistons aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, où on ne veut plus employer le mot repentance, ni le mot conversion, sous prétexte que l'homme moderne ne le connaît plus, par conséquent qu'il faut se faire tout à tous, eh bien là, c'est aller trop loin. Parce que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la notion des choses que les choses n'existent pas, ou cessent d'exister, ou alors à ce moment-là, où allons-nous? Car demain, comme je l'écrivais à un de ceux qui se faisaient l'avocat de ce genre d'évangélisation, eh bien, les hommes n'auront plus la notion du péché non plus. Alors, il ne faudra plus parler du péché. Et si nous ne parlons plus du péché, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Quelle va être notre évangélisation? Qu'est-ce que nous allons dire? Or, c'est le drame aujourd'hui. L'Église n'a plus rien à dire dans le domaine de l'évangélisation. Alors, comme elle n'a plus rien à dire, comme a montré Jacques Ellul fort bien, elle fait des spectacles. Elle se montre, ou elle montre, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Elle fait des mauvais spectacles parce qu'elle est incapable d'en faire de bons. Et elle est du sel qui a perdu sa saveur et qui n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mission évangélisation, quelle différence entre les deux réalités? Elle est simple. L'évangélisation, c'est le témoignage rendu à notre porte, si j'ose dire. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et la mission, eh bien, c'est le témoignage rendu aux extrémités de la terre. Alors, bien entendu, être témoin à Jérusalem, tous les membres de l'Église ont à l'être. Parce qu'ils en ont tous l'occasion et ils en ont tous la possibilité. Être témoin aux extrémités de la terre, tout le monde ne peut pas le faire, c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des envoyés. On appelle ça aujourd'hui des missionnaires. Et le missionnaire, il n'est que l'envoyé de l'Église. Et c'est pourquoi son travail est l'œuvre de toute l'Église, et pas simplement du simple individu qui est envoyé, ou des simples individus qui sont envoyés. Et c'est pourquoi l'Église doit se préoccuper non seulement de l'évangélisation à sa porte locale, mais de l'évangélisation aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, je m'arrête là parce que le temps est passé. On continuera sur ce chapitre si important la prochaine fois.